things I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les séries. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino, Copelia Ménardi et Camille André. L'équipe technique ce soir est composée de Cédric Châtelus, Stéphane Touvenin et Benjamin Vignal. La réalisation, bien sûr, signée Daniel Fineau. Et autour de moi ce soir, en public du Bel Air, le bar de la maison de la radio, Iris Bray, Joseph Ghost, Olivier Joyard, pour parler ensemble de Here and Now d'Alan Ball, Irresponsable saison 2 de Frédéric Rosset et Altered Carbon de Laeta Kalogridis. Boris Pino, lui, est là pour surveiller les fils Twitter et Facebook. Pour donner à entendre vos commentaires, si vous avez déjà vu ces séries, puis il y aura bien sûr des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le Salon international de l'agriculture qui se déroule du 24 février au 4 mars à Paris Expo, porte de Versailles. Alors, est-ce qu'on va moins se disputer dans cette émission que dans le grain à moudre qui nous précédait ? On va bien voir ce soir un programme assez varié. On va commencer cette dispute avec la nouvelle série d'Alan Ball, scénariste, rappelons-le, du film American Beauty, créateur de Six Feet Under et de True Blood. Cette nouvelle série s'intitule donc Here and Now. Ici et maintenant, je vous offre la traduction en même temps, et nous présente une famille, forcément avec lui, très dysfonctionnelle, forcément aussi avec Alan Ball, avec des parents post-baba, le père est professeur de philosophie, la mère ancienne psy. Ils ont adopté les enfants dans des pays malmenés par les États-Unis, Vietnam, Libéria et Colombie. Puis ils ont aussi une fille biologique. Le premier épisode se déroule le jour du 60e anniversaire du patriarche, incarné par Tim Robbins, son épouse, elle, étant jouée par Holly Hunter.
Must be cool, having siblings from these exotic places.
Three are adopted. One's mine. No, they're all mine.
Holly Hunter et Tim Robbins.
Family. This is a great experiment.
Here and Now, saison 1 inédite, à partir du 12 février sur City Génération HBO.
Voilà, comme ça, j'ai pas besoin de faire l'annonce. Alors, la famille, c'est la grande expérience, experiment, on peut le traduire de façon un peu différente, on va dire expérience, parce qu'elle est toujours chez Alan Ball. Premier regard sur cette nouvelle série, forcément attendue, Iris Bray.
C'est très décevant.
Ça commence bien.
Non, mais après Six Feet Under, en fait, je pense qu'il y avait une telle attente, justement, de retrouver une famille dans une Amérique contemporaine. Et en fait, Alan Ball veut tellement être contemporain qu'on a l'impression qu'il perd le fil de ce qu'il veut raconter. Je pense que là où il faut un tout petit peu spoil, divulgâcher le premier épisode, il va y avoir une incursion en fait dans le fantastique. À un moment, je trouve que c'est peut-être ça qui est le plus intéressant dans ces quatre premiers épisodes que nous on a pu voir.
Le premier a été diffusé lundi dernier.
Voilà, et c'est là en fait où ça se rattache à Six Feet Under, où voilà où il y avait les moments où la mort et où l'au-delà s'immisçait dans le réel, et c'était vraiment ça qui avait de passionnant. Je trouve que c'est dans ces moments où Alan Ball retrouve un peu ce mécanisme de mélanger la fiction, l'au-delà, ce qui nous arrive dans des vies parallèles avec ce qui se passe maintenant, que c'est réussi. Après, faire le portrait d'une famille ultra contemporaine américaine avec des pièces comme ça qui se frottent les unes aux autres, mais en fait, il n'y a pas rien, il n'y a pas de lien. Enfin, moi, le lien, je ne le vois pas et c'est ce qui me manque.
Premier regard d'Olivier Joyard sur Here and Now.
C'est, vous avez souligné en introduction que ça commence par le 60e anniversaire du patriarche, et Six Feet Under, ça commençait par la mort du patriarche. Et c'est quand même un peu symbolique en fait de l'écart entre les deux séries. Alors je comprends qu'il n'ait pas envie de raconter la même chose toute sa vie, le pauvre Alan Ball,
parce que
il a passé quand même 15 ans à faire le service après-vente de ce chef-d'œuvre que tout le monde reconnaissait. Enfin, cela dit, moi au début, Six Feet Under m'avait un peu... je sais pas.
En famille de croque-morts, rappelons-le,
voilà,
quand
ça,
même.
Pardon. Oui, c'était une famille de croque-morts dont le patriarche mourait au premier épisode. Et ensuite, c'était une sorte de soap d'auteurs contemporains qui montraient à quel point les séries reprenaient l'idée du drame psychologique du cinéma à leur compte. Quoi. Mm. Ça a été vraiment important. Et à partir de la quatrième saison, c'était magnifique, de Six Feet Under.
Enfin, il faut être patient quand même.
Oui, mais c'est bien, les séries, il faut être un peu patient. Et ça. Mais,
ce sera donc, peut-être le cas pour celle-ci. Je le dis pour Iris Bray.
Ouais,
rendez-vous dans 3 ans.
C'est ça, ça sera magnifique. À la fin, en fait. Le dernier épisode, les 10 dernières minutes seront très belles, je pense.
Pour ce que vous en avez vu, vous, Olivier Joya.
Bah, du coup, voilà, c'est le renouveau du patriarche qui essaye de filmer Alan Ball, qui a d'ailleurs réalisé le pilote lui-même, et c'est donc Tim Robbins. Et je crois que moi, personnellement, la crise existentielle d'un homme blanc de 60 ans, j'ai pas l'impression que ce soit la plus grande nouveauté qu'on puisse offrir dans les séries d'aujourd'hui. Et
surtout, attendu que ça vous arrive.
C'est vrai. Mais peut-être que je l'écrirai moi-même à ce moment-là et personne ne la regardera, je sais pas.
C'est possible.
Mais, voilà, c'est ça. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais j'ai essayé de dire
donc
quelque chose.
Donc, c'était pas la chose la plus passionnante que de filmer la crise de la soixantaine.
C'est ça. Mais et
moi,
du coup, en
écoute,
fait, la mort du. Merci beaucoup. La mort du père crée un nuage noir permanent dans Six Feet Under. Ici, on se demande à quoi se rattacher immédiatement. Et du coup, moi, j'ai absolument. Je me dis qu'au fond, une grande série sur une famille dysfonctionnelle, compliquée. Aujourd'hui, c'est This Is Us, qui est une série grand public et peut-être beaucoup plus familiariste à la base que Here and Now, mais qui, au fond, moi, me satisfait plus et me paraît beaucoup plus sophistiquée.
Premier regard de Joseph Gosse, à présent.
Eh bien, moi, j'étais au contraire assez interpellé et stimulé par cette série. Enfin, en tout cas, par les 4 épisodes que j'ai pu regarder, parce que effectivement, j'ai l'impression que j'ai eu tout d'abord, mais ça rejoint peut-être un peu ce que dit Olivier, c'est un sentiment un peu d'être un peu perdu, de ne pas savoir exactement où ça menait et ce que ça menait. C'est-à-dire qu'à partir de cette crise du patriarche, de cette crise de la soixantaine, oui, c'est un peu cliché. Et ensuite, je ne savais pas exactement quel fil était en train d'être tendu ou tissé. Mais au bout de 2 ou 3 épisodes, c'est un peu ça en fait qui m'a vraiment tenu, c'est-à-dire cette sensation de perte et aussi cette faculté à travailler sur les archétypes, parce que effectivement ce ne sont que des archétypes. Cette famille elle est dysfonctionnelle, mais elle est au départ elle est portée uniquement par des clichés, c'est-à-dire que ce sont effectivement, comme vous le disiez, des enfants adoptés de pays qui ont subi l'Amérique, et donc c'est une sorte de laboratoire. Alors ça peut être très premier degré comme ça, une sorte de laboratoire de ce qu'est ou de ce que pourrait être l'Amérique aujourd'hui, l'Amérique en train de se développer et qui se confronte avec elle-même. Alors, oui, forcément, il y a quelque chose de l'ordre du post-68ard, avec ce père prof de philo qui a sa crise de la soixantaine, blanc, avec sa femme blonde, blanche, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui est porté ailleurs, c'est-à-dire ce qui est porté en dessous. Les générations qui arrivent, effectivement, de voir qu'ils ont un fils, ils ont un fils qui a ces espèces de crises d'hallucination, dont on ne sait pas exactement si elles sont des percées dans l'imaginaire ou dans le fantastique. L'exploration de la sexualité des filles, mais aussi de ce garçon-là, son homosexualité. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont confrontées, qui sont effectivement hyper contemporaines. On a l'impression de ça tout de suite. Mais il y a aussi quelque chose d'autre, j'ai l'impression, qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est le rapport entre la vie réelle et la vie totalement virtuelle ou fictive, qui est explorée effectivement à la fois par les hallucinations du garçon, mais aussi par l'omniprésence du téléphone, des réseaux sociaux, du fait de se filmer, et aussi par la présence de jeux vidéo, parce que l'un des garçons travaille sur ça. Il y a beaucoup de choses. Alors, au bout de 4 épisodes, je ne vais pas vous dire si c'est un chef-d'œuvre ou si c'est raté. Mais en tout cas, moi, ça m'a plutôt bien stimulé. Ça pose beaucoup, beaucoup de questions quand même.
Alors moi, je n'ai vu qu'un seul épisode pour des histoires d'accès à l'espace presse un peu compliqué pour moi, en tout cas, ces dernières semaines. Alors c'est vrai que c'est compliqué. Ça donne plutôt envie de voir la suite quand on n'en a vu qu'un seul, comme la plupart des gens qui nous écoutent ce soir. Plutôt bien écrit, plutôt assez intriguant, effectivement, avec ses visions. On ne sait pas de quelle nature. Les personnages commencent un petit peu à exister, mais j'ai craint que ce soit effectivement un This Is Us intello, qui se voudrait plus adulte, qui se voudrait destiné à un public plus évolué intellectuellement. Donc ça m'inquiète un petit peu. On verra ce qu'il en est par la suite. Mais et puis au-delà de ça, je suis un peu lassé, je dois dire, cette nouvelle tendance de la série américaine, on va dire adulte, de mettre beaucoup de scènes de sexe assez creux, avec de la nudité frontale, en veux-tu, en voilà, homme-femme. J'ai l'impression que c'est une nouvelle case à cocher et qu'il n'y a pas toujours une justification extrême, en tout cas. Et notamment dans ce premier épisode, il y en a quand même beaucoup, de toute nature. Ça me ressemble davantage à un tic, j'ai l'impression, aujourd'hui. Puis Sense8 a passé la barre trop haut pour les autres, donc de toute façon, c'est pas la peine d'essayer de se mettre à niveau. Mais ça pose la question, que j'aimerais vous renvoyer aux uns et aux autres, de comment faire aujourd'hui une série adulte dans le paysage des séries, notamment aux États-Unis, comment se démarquer. On a l'impression que c'est quand même ça qui travaille Alan Ball, Iris Bray.
Oui, mais je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement artificiel. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il faut aujourd'hui avoir un personnage transgenre, une femme noire, un homme gay, un homme asiatique, un problème de couple, un problème d'érection. Et donc, on a la liste. Et là, vraiment, il fait tout. Et en même temps, il n'y a pas de substance. Et du coup, ça ne crée rien. Il n'y a aucune émotion, en fait, qui se dégage de ça. Et je pense que ce n'est pas du tout une série intellectuelle. En fait, j'ai l'impression que cette série, elle est vraiment basée sur du vide. Et pourtant, c'est assez bien écrit, parce qu'à la fin de chaque épisode, on a envie de regarder le prochain.
Moi, j'ai envie de voir la suite.
Voilà. Oui. Mais c'est dès qu'il y a un peu un mystère autour de ce fils adopté, mais qui a des visions, donc ça pose la question de qu'est-ce qu'il a, l'héritage biologique et ce que la famille finalement crée. Ça, finalement, c'est le personnage le plus intéressant. Après, pour faire une grande série américaine aujourd'hui, je rejoins en fait un peu Olivier. Je trouve que This Is Us raconte beaucoup plus de choses sur l'Amérique contemporaine et le rapport à la famille et l'adoption, pour l'instant en tout cas, que Here and Now. Et même la banalité de ce titre, Here and Now, je trouve qu'on n'arrive même pas à s'en souvenir, quoi, ici et maintenant. Et en même temps, ça veut rien dire et tout dire. Et vraiment, j'ai l'impression que voilà, pour moi, il y a un espèce de vide que Alan Ball essaye de combler avec tous ces petits éléments, et pourtant il n'y a rien de radical. Moi, j'ai trouvé les scènes de sexe terriblement ennuyeuses.
On est d'accord, mais elles sont très présentes, en tout cas au début. Mais Here and Now, c'est aussi ça s'affiche comme principe de la série. Alors c'est utilisé par l'un des enfants qui est thérapeute. Il faut être dans le présent. Mais qu'est-ce que c'est que le présent ? Donc là, on renvoie au chemin de la philosophie sur France Culture un peu plus tôt dans la journée. Joseph Gauss, cette série adulte américaine aujourd'hui ?
Mais moi, je trouve que la façon dont la sexualité est omniprésente, c'est plutôt c'est un marqueur, c'est un leitmotiv dans cette série, en fait. À chaque fois, par exemple, la sexualité du père n'est pas la même que la sexualité des enfants, mais elles se font écho quand même. C'est une sexualité qui finalement est assez banalisée, qui est montrée de manière très très banale, mais qui correspond finalement à ce here and now, c'est-à-dire à aujourd'hui, maintenant, à ce moment présent. Et au contraire, moi j'ai l'impression que c'est une série qui essaye de se battre, en tout cas de se confronter à cette instantanéité qui est quand même notre présent, et de voir comment tirer les ficelles de ça et d'y confronter justement des gens qui n'ont pas vécu ça et comment la sexualité se construit aussi pour un couple de 60 ans et comment elle se fait aussi pour ses gamins. Moi, la sexualité, elle m'a plutôt interpellé, et son omniprésence fait vraiment partie du jeu. Alors ensuite, oui, effectivement, ça coche toutes les cases des clichés, mais c'est ça aussi qui est assez fort, c'est-à-dire que oui, ce ne sont que des clichés, et c'est l'accumulation de clichés qui fait que on vit aussi dans ça, c'est-à-dire qu'on vit aussi avec des gens aujourd'hui qui sont transgenres, qui ont envie de passer d'un sexe à l'autre, des gens qui sont qui ont des sexualités qui ne sont plus ces sexualités stéréotypées et qui se posent des questions. Et la série, j'ai l'impression, explore ces questions-là. Et moi, de ce côté-là, ça m'a plutôt interpellé.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait aussi écho à la dispute d'hier soir qui portait sur la littérature. On parlait de Jonathan Franzen et de la publication en France de son second roman, Phénomène naturel, qu'il a écrit il y a 25 ans avant le succès. Et on se posait cette question de cette volonté qui nous semblait assez manifeste à nombre d'entre nous autour de cette table, de vouloir avoir coché toutes les cases pour être le grand romancier américain. Là, j'ai un peu le même sentiment, Olivier Joya.
Ouais, je suis très interpellé par cette question parce que j'ai envie de dire que je me la posais déjà il y a 15 ans en regardant les premières séries HBO. C'est-à-dire que, et ça avait du sens à l'époque, c'est-à-dire que c'était de prendre une place qui n'était plus prise ou qui n'était pas encore prise, mais en tout cas, soit par le cinéma, soit par d'autres formes artistiques. Et la série s'est glissée là-dedans et s'est dit finalement... je sais pas, le cinéma, ça serait l'art de l'enfance et la série, ça serait l'art de l'âge adulte. Il y aurait un passage historique, presque une rupture épistémologique à ce moment-là où on dirait, voilà, on va vous raconter des choses qu'on n'ose plus vous raconter au cinéma ou qu'on n'a jamais osé vous raconter. Et c'est vrai que, au fond, je sais pas si c'est vraiment la fonction que moi, que j'attends d'une série. Enfin, en tout cas, c'est pas vraiment ce qui me fait vibrer. Et cette question de l'art adulte, qui est aussi une question, quand même, d'exclusion des séries populaires, par exemple. C'est pour ça que moi, je prends This Is Us ainsi que Iris comme exemple, parce que elle peut être un peu méprisée par ces thématiques.
Moi, je l'adore. Je l'ai déjà dit ici, je le redis. Hein.
Je n'en doute pas, mais je pense que dans la zeitgeist, disons, dans l'imaginaire culturel du moment, il y a cette idée quand même que les séries, c'est maintenant pour les grands qu'on a le droit de les regarder et que c'est plus des objets jetables, etc. Et moi, j'adore les objets jetables. Donc, du coup, je suis un peu en porte-à-faux par rapport à cette question parce que j'adore et je trouve qu'effectivement, là, on se trouve aux limites de la caricature. Et en même temps, j'ai l'impression qu'Alan Ball raconte quelque chose d'extrêmement personnel sur son propre vieillissement, sur son regard sur la jeunesse. Moi, j'aime bien, alors pour le coup, le personnage de la jeune fille...
La vraie fille biologique me fait
penser à Claire de Six Feet Under. Et là, du coup, il y a un fil émotif pour moi qui se trame. C'est-à-dire que j'y vois un palimpseste de ce personnage d'il y a 20 ans qui pourrait être sa mère aujourd'hui, presque.
Avant de continuer, Boris Pinot, quelques réactions sur les réseaux sociaux ?
Oui, Olivier M sur Twitter se dit déjà accro au premier épisode, ça promet. Alan Ball frappe à nouveau très fort. Gaines, elle, passablement agacée par Here and Now, que je trouve extrêmement paresseuse et complaisante, ce qui sauve la série, un soupçon de mystère qui invite à en découvrir davantage. Et en cyclo, je retrouve tout ce que j'aime chez ce poète qu'est Alan Ball, des personnages attachants, un rythme posé, un cynisme captivant. Comptez sur moi pour la suite.
Ouais, la question du rythme, elle est intéressante. Non, mais, oui, ça vous fait rire, Iris Bray. Pourquoi?
Ah ouais, parce que je trouve ça terriblement lent avec certaines accélérations.
Moi, j'aime bien cette lenteur, moi. C'est cette rupture de rythme.
Je n'appellerais pas ça une rupture de rythme. Je dirais qu'il n'y a rien à dire. Puis à la fin, il faut quand même qu'on clique pour voir le prochain épisode. Donc, je vois ça plutôt construit comme ça. Après, c'est pas du tout désagréable à regarder. On peut vraiment se dire qu'on va passer un moment sympa.
Mais c'est horrible de dire ça, rien de plus péjoratif. Hein. Ouais. C'est bien ce que... Olivier Joyard, le rythme ?
Disons, c'est plutôt l'équilibre qui me pose problème que le rythme. C'est-à-dire que l'irruption du fantastique, moi, à chaque fois, j'ai envie que l'épisode ce soit ça, en fait. J'ai l'impression que ce que Joseph disait, c'est le fantasme de la série qu'on a envie de voir. Oui. C'est presque, du coup, c'est ça qui est bien dans l'exercice critique, c'est parce qu'on peut inventer la série ou le livre ou le film. Mais voilà, moi, c'est vraiment ça qui me. J'ai envie que la série devienne, après ces quatre premiers épisodes, une plongée beaucoup plus risquée dans des mondes parallèles.
Joseph Ghost, pour terminer sur Here and Now.
Mais moi j'aime bien le rythme, j'aime bien à la fois la lenteur et j'aime beaucoup les personnages en fait. Je les trouve plutôt bien faits, j'ai envie de les connaître, de vivre un peu avec eux en fait. Et c'est, je trouve que c'est aussi une fonction de la série, c'est-à-dire d'à un moment, vous rentrez dans quelque chose et ces personnages-là vivent avec vous et en vous un peu. Et moi je tire pas mal de choses de ça, notamment il y a par exemple un personnage du psy iranien qui à un moment en relie plusieurs. Ouais, je trouve ça assez intéressant, même si c'est un peu cliché, un peu poussé, etc. Mais oui, ça j'aime bien ça. Oui.
Bon, vous allez vivre avec eux un petit peu. Je crois que c'est 10 épisodes, non ? Here and Now ?
Je crois, oui.
Me semble-t-il. Donc le premier a été diffusé lundi dernier sur OCS. Il est donc disponible sur cette chaîne et plateforme. Et il est donc tous les lundis. Un nouvel épisode, c'est le US plus 24, me semble-t-il. Donc ça suit vraiment de tout près la diffusion aux États-Unis pour Here and Now d'Alan Ball. À suivre dans la dispute Irresponsable et Altered Carbon.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir aux séries, toujours en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, nous vous attendons tous les vendredis, rappelons-le, pour parler à présent d'Irresponsable, saison 2, qui débute la semaine prochaine encore sur OCS. Alors, il faut que je fasse un peu de résumé quand même sur la saison 1, où on avait découvert le personnage de Julien, chômeur glandeur de 31 ans qui était revenu vivre dans le pavillon de sa maman, maman qui vivait seule à Chaville. Il tombe sur Marie, son amour de jeunesse, qui avait subitement disparu avec sa famille. Ils avaient tous les deux 15 ans. C'était vraiment une blessure terrible pour ce jeune homme. Mais Marie apprend à Julien que s'il est parti, c'est que ses parents en avaient décidé ainsi, découvrant sa grossesse. Julien découvre donc dans cette saison 1 qu'il a un fils, Jacques, élève au lycée où enseigne à présent Marie, le lycée où s'étaient rencontrés les amoureux. Mais si la série s'appelle Irresponsable, ce n'est pas sans raison. Cette soudaine paternité avait causé bien des rebondissements dans la saison 1. Au moment, au début de la saison 2, Julien a réussi, grâce à un chantage, à se faire embaucher comme pion à mi-temps dans le fameux lycée. Sa mère, elle va partir à la retraite et doit annoncer à Jacques un événement important. La série est signée Frédéric Rosset, issu de la section série de la Fémis. Nous y reviendrons.
Est-ce que la maturité finit par venir avec le temps ?
Là, dans ma vie, il faut que je sois un modèle pour vous, hein. Un exemple pour la jeunesse de demain.
Pas pour tout le monde, c'est clair.
Oh, vas-y, Jean-Pierre !
J'ai 32 piges, je vis toujours chez ma mère.
Viens vivre avec moi.
Ouais. Et je refuse de venir vivre ici, ok ? Hé,
hey, c'est moi.
Hé, hey, c'est toi.
OCS Signature poursuit l'aventure du plus infantile des pères.
J'ai un gamin de 16 ans, j'ai aucune autorité sur lui, je sais plus quoi en foutre.
T'es relou !
Ok.
Tu peux être professionnel au moins une fois, s'il te plaît ?
Putain !
Vous êtes vraiment des gros gamins, en fait.
Oui.
Des gros gamins. Olivier Joyard, Irresponsable, saison 2.
Ça s'adresse à moi.
Je commence avec vous.
Une comédie française d'un format 26 minutes. Déjà, c'est...
Maggie.
Ouais. Depuis les années 80, ça n'existe plus, quasiment. Et rien que pour ça, et cette idée que Irresponsable soit pensé de cette manière-là, j'ai envie de la défendre par principe, quasiment. Quoi.
Mais pas que.
Et non, pas seulement, mais il y a quelque chose d'assez... un peu irrésistible par moment dans cette série, c'est-à-dire qu'elle construit un personnage. En fait, c'est très lié. Moi, j'avais vu le pilote à la Fémis. Donc, en fait, c'est Frédéric Rosset. Il est de la première série.
De la section série.
C'est ça. C'était, je crois, il y a 4 ans.
Il était sorti de la Fémis avec ce premier épisode,
C'était le projet de fin d'études, ils avaient réalisé ça, et c'était déjà à l'époque assez marquant, y compris dans le paysage général de la fiction en France, quoi. Et il a donc réussi à vendre sa série à OCS, qui produit dans des conditions, je dirais, un peu artisanales, qui sont proches quasiment du court-métrage, mais en même temps, évidemment, on raconte un peu ce qu'on veut. Et là, il y a l'émergence d'un acteur, c'est quand même ce qui est le plus notable et le plus évident, c'est Sébastien Chassagne, que j'espère on va voir beaucoup, mais pas trop non plus, pour pas qu'il gâche son talent dans de multiples productions. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que ça a un lien quand même avec cette idée d'une irruption d'un acteur, c'est que l'irruption de la paternité dans sa vie, c'est comme s'il enfilait un costume tout d'un coup, quoi. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se double, en fait, entre son désir d'acteur, sa joie de jouer, qui est toujours... évidente, quoi, et cette espèce de paternité qui lui tombe dessus et dont il essaie de faire un jeu et de construire quelque chose. Donc c'est vraiment cette articulation-là, moi, qui m'intéresse dans la série, qui par ailleurs a quelques défauts dont on va peut-être parler.
Joseph Gosne, Irresponsable. Vous avez découvert, là, pour l'émission, comme moi d'ailleurs, j'en parlerai.
Et ça ne me parle absolument pas. Je trouve qu'effectivement, ça me renvoie aux séries des années 80 qui étaient assez lamentables.
Des titres en tête ou...
Celle qu'on a citée tout à l'heure, Maggie. Pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est exactement ce que faisait Maggie à l'époque, c'est-à-dire la télé qui construit un petit spectacle qui semble renvoyer des préoccupations qui ont vaguement l'air d'être celles de ceux qui la regardent. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire qu'on nous dit cette série, elle va être regardée par des gens qui ressemblent à ce garçon et on a pris plein de clichés qui sont ceux de les trentenaires aujourd'hui sont des gamins irresponsables, des gamins qui n'ont pas grandi, etc., etc. Ça ne me fait pas rire. Je trouve que c'est vraiment ça me tombe des yeux plutôt, et j'arrive absolument pas à aller jusqu'au bout. Je trouve ça, voilà.
Bon, vous développerez peut-être, oui, Iris Bray. Essayez.
Eh bien, je dois ressembler au héros de Irresponsable, parce que moi, ça me fait beaucoup rire. Enfin, vraiment, c'est des éclats de rire dans mon lit, comme j'en ai rarement. Je trouve que il y a quelque chose du phrasé, il y a quelque chose dans le jeu de l'acteur, il y a quelque chose dans l'écriture qui fait que j'ai regardé les 10 épisodes de la saison 2. Alors que finalement, il y a vraiment très peu d'enjeux, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à cliquer pour savoir si cet héros est vraiment bipolaire comme dans Here and Now. Enfin, on a juste envie de voir cette vie un peu de loser, mais quand même sentimentale. Et je trouve que voilà, c'est difficile une saison 2, et je trouve qu'en fait ils ont réussi quand même à garder cette chose du rythme qu'ils avaient dans la saison 1 et de l'humour aussi. Après, je trouve que là où ça pourrait aller un peu plus loin, en tout cas, moi, je pense que les personnages féminins sont pas du tout assez développés. Ils sont pas du tout drôles. Je trouve ça très injuste. On ne rit jamais avec Marie, on ne rit jamais avec la mère de Julien.
Bon, si, la mère, quand même. Elle...
Ouais, mais elle dit pas des choses très drôles, enfin, par rapport aux autres. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est vraiment ce rapport entre ce jeune père et son fils qui est déjà ado, et de parler en fait entre un ado de 16 ans et un trentenaire sur des thématiques comme l'amour, la sexualité, et de finalement d'essayer de jouer au père et d'être plus un ami. Je trouve que voilà, et le fils qui lui-même doit jouer au père parce que son père fait n'importe quoi. Je trouve qu'il y a un équilibre là-dedans qui est parfois, on sent des petites fragilités, mais moi c'est ce qui m'attache aussi à la série.
Bon, bah, je rejoins ce camp-là. Moi, j'ai découvert Irresponsable pour cette émission et je me suis tout aussi régalé. J'ai pas ri dans mon lit parce que je l'ai pas vu dans mon lit, moi. Mais il faut louer OCS aussi qui, alors certes, donne peut-être peu de moyens, mais en donne. On a déjà ici parlé des grands qui aussi sur ce même format court, ce qu'une série que j'aime bien. Mais alors, Irresponsable, c'est quand même un degré nettement plus élevé de réussite pour moi. Le point de départ est, je trouve, assez bien trouvé. Et il évolue, en même temps il est très crédible, génie des situations, évolution du récit. Moi j'ai d'ores et déjà envie de voir la saison 3, ça je le dis tout de suite. Mais c'est vrai que la distribution, pour ne pas dire le cast, pour parler bien français, Sébastien Chassagne est grand, bon ça... Il faut le savoir maintenant, si on n'a pas encore vu Irresponsable, on va le découvrir. Et puis il y a Théo Fernandez, citons-le, puisque c'est le fils, et que ce duo-là, il a un vrai sens du timing, du rythme, on en parlait, ça c'est indispensable à la comédie, quand il faut laisser cette demi-seconde de plus avant la réplique suivante, c'est ça qui fait rire Iris Bray aux éclats dans son lit. Ça se joue quand même à la seconde, une hésitation, un regard. Moi, je trouve que c'est extrêmement fin. Mais c'est vrai que je trouve que la mère de Jacques, Nathalie Cerda, et puis Marie Kaufmann qui joue la... Non, la mère de Julien, c'est Nathalie Cerda et la mère de Jacques. Bon, c'est plus, hein, parce que les générations sont un peu mélangées, c'est Nathalie... Non, bon, bref. Nathalie Cerda et Marie Kaufmann sont là, toutes deux. Si, certes, Nathalie Cerda, elle a peut-être pas les mots qui amènent le rire, mais elle a vraiment un corps, des attitudes et une gestuelle qui sont assez irrésistibles aussi. Et puis ça me réjouit, oui, que ce soit quelqu'un qui sorte de la Fémis, section série. On a tellement tapé sur la Fémis et son esprit de sérieux et ses films d'auteurs formatés, ce qui n'était pas complètement faux, qu'il y a des talents différents qui peuvent s'y épanouir, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle pour la production audiovisuelle, film et télé de française, Olivier Joyard.
Oui, ça donne beaucoup d'espoir, mais c'est vraiment dans le versant comédie que moi je trouve que c'est une réussite et un risque pris par le diffuseur, puisque apparemment les comédies françaises ne font rire personne, à part les comédies au cinéma.
À part nous trois.
Très, voilà.
Pas Joseph.
Mais il y a quand même. Enfin, ce que je trouve qu'il faut quand même dire, c'est que les comédies françaises grand public du cinéma des 10 dernières années sont souvent affligeantes, souvent idéologiquement un peu compliquées. Là, je trouve qu'on est dans un imaginaire assez différent, qui certes est très clichetonneux. C'est une banlieue un peu cossue, Chaville. Enfin, il y a quelque chose de. On n'est pas dans le cœur de la France d'aujourd'hui, de manière. On met pas le couteau dans la plaie, hein, ça c'est sûr. Mais
enfin, c'est un endroit où beaucoup de gens peuvent se reconnaître.
Oui, absolument. Mais il y a une zone étrange, quoi. Vraiment, les zones pavillonnaires de banlieue. Il y a quelque chose qui se dessine là-dedans, et d'arriver à mettre du comique et du burlesque, voire du slapstick, ça produit quelque chose. Moi, les petites réserves que j'ai, c'est sur l'articulation qu'il peut y avoir avec quelque chose de plus fort et de plus émouvant. Je pense que c'est peut-être un peu dans la mise en scène que ça peut pêcher. Alors, je ne sais pas comment ils tournent ça. À mon avis, ils ont des journées un peu compliquées. Ils tournent ça très, très vite. Donc, je ne vais pas jeter la pierre au réalisateur Steven Caffiero. Mais il y a peut-être un tout petit manque d'ambition formelle. Et peut-être resserrer un peu les acteurs à un moment sur quelque chose qui serait de l'ordre de... Parce que c'est quand même... Ça parle de paternité, ça parle de couple, ça parle de sujets qui sont... Les grandes comédies, elles font vraiment mal, quoi.
Éric Bray.
Oui, je suis assez d'accord Avec Olivier, je serais un petit peu moins dur sur la mise en scène. Je pense que c'est filmé, donc c'est cross-bordé, c'est-à-dire qu'ils font plusieurs épisodes ensemble par lieu. Je pense qu'ils tournent comme ça. C'est vrai que j'ai pas envie de parler de la fin de la saison 1. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait, il y a certains moments de retrouvailles que je trouve vraiment très jolis, mais c'est vrai que on pourrait être un tout petit peu plus dans l'émotion maintenant que on a su que le, en tout cas que le rire fonctionnait pour trois d'entre nous. Mais voilà, j'ai l'impression que maintenant il faut que les scénaristes s'autorisent aussi d'aller un peu parfois vers des, oui, vers un peu plus de mélo, quoi, parce que parfois c'est un peu mélodramatique.
Et ils savent le faire aussi, les comédiens.
Oui,
on
bien
le voit.
Sûr, bien sûr.
Ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas sur Joseph. Alors.
Mais déjà, esthétiquement, c'est extrêmement pauvre. Et non, ça ne fonctionne pas. Et surtout, en fait, quand vous revenez sur l'idée de paternité, irresponsabilité, des gamins qui ne grandissent pas ou des adultes qui sont toujours des gamins, il y a eu tellement de choses faites avec une esthétique. Mais je pense juste comme ça, par exemple, à ce que Wes Anderson fait depuis 25 ans.
Pas les mêmes moyens.
C'est pas les mêmes. Ben, c'est oui, mais enfin, les premiers Wes Anderson, quand même. Non, mais quand même, quand on a de l'ambition et de faire des choses comme ça, moi je trouve ça pauvre et parler de slapstick, ben, ouf, ça me laisse vraiment très très froid en fait.
Ah bah, Olivier, faut que je définisse en quoi c'est slapstick. Non, moi c'est le côté, bah, il renvoie la balle plus vite qu'il la reçoit, l'acteur principal. C'est vraiment ça la base de l'art comique au cinéma. Et peut-être que la série pourrait lui offrir un écrin un peu plus fou. Voilà, c'est peut-être ça qui est. Mais pour le reste, je crois qu'on va être, comment on dit en français, enfin être d'accord pour ne pas être d'accord.
Dire que les comédies françaises au grand public, dites-vous, sont assez navrantes dans leur ensemble. Il y a quand même quelques rares exceptions. Alors, on voudrait croiser les doigts. J'ai vu la bande-annonce il y a 2-3 jours en salle de Gaston Lagaffe. C'est Théo Fernandez, donc le fils de l'irresponsable qui joue le personnage titre. Et d'ailleurs, Sébastien Sachan est aussi dans un rôle secondaire. Je ne sais pas si les uns ou les autres, vous avez déjà vu ce film-là. Vous craignez le pire, Joseph,
tout,
je suis sûr.
Non, je ne suis pas très fan de Gaston Lagaffe, donc je m'attends mieux.
Bon, d'accord. Iris Bray, ça vous inquiète cette possible dilution de ses talents ?
Non, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'il n'y ait pas assez d'argent, en fait. Parce que je pense que quand on parle d'esthétique, il faut quand même, quand on connaît les chiffres aussi qui sont donnés pour la fiction française, pour un 26 minutes sur OCS, c'est très très compliqué. Donc moi, je pense qu'il y a quand même une recherche dans la mise en scène et du réalisateur, donc je sais pas, j'ai quand même, je trouve que l'écriture en tout cas montre un niveau qui existe en France et qu'il faut célébrer.
Ouais, c'est une génération qui a vu des séries et qui essaie de réfléchir sur la forme et sur le genre. Donc moi, de fait, ça me passait vraiment des préoccupations aussi comme critique, et donc je trouve qu'il mérite vraiment d'être soutenu. Enfin, c'est-à-dire que si on commence à ne pas soutenir ce genre de série, on a parfaitement le droit. On va quasiment plus rien soutenir en France des tentatives comiques en tous les cas, ou un peu hors cadre, quoi. Voilà. Mais je comprends bien que Joseph trouve que ce n'est pas hors cadre.
Soutenir par défaut, ce n'est jamais un bon soutien.
Moi, je soutiens pas par défaut.
Nous, on se tient pleinement, mais c'est vrai que la question des moyens, on va en parler dans quelques minutes avec Alter de Carbone, les moyens ne font pas tout et on peut faire beaucoup de choses sans moyens. Mais en même temps, ça veut dire quoi? Que OCS n'a pas les moyens justement de voir plus grand, qu'il faudrait que la série se fasse piquer par une grande chaîne pour qu'elle ait plus de moyens? C'est quoi le paysage et le mercato possible dans ce domaine?
Pour des comédies en 26 minutes en France, non, il n'y a pas. On a vu la série de Zabou, Paris sur Canal+, qui était une comédie. Après, je n'ai pas trouvé ça génial, malgré, à mon avis, il devait y avoir plus de moyens. Bon, il y a la série d'Olivier qui arrivera sur Arte.
Et les scénaristes aussi.
Et qui est une comédie aussi. Mais là, c'est du 52 minutes. Donc pour ce format 26 minutes, je trouve que OCS au moins il va et prend des jeunes talents, et ça je trouve que c'est prendre des risques. Il y a peu de chaînes qui le font, et alors là il y avait un pilote à montrer, donc on voyait déjà qu'il y avait quelque chose, mais je ne peux pas parler au nom d'OCS, je ne sais
non,
pas.
Non, mais du paysage que vous connaissez, ouais. Audiovisuel français, c'est vrai qu'on peut se demander, parce que je me demande toujours, mais alors OCS, qui regarde ? Est-ce qu'on a des chiffres sur...
Je sais pas, mais de plus en plus de gens, hein, je pense. Vraiment, enfin, alors, en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est devenu pour les séries Phil une forme de référence, puisqu'ils ont un contrat exclusif, je crois, avec HBO. Donc toutes les séries HBO sont là. Puis ils ont aussi Handmaid's Tale. Qu'est-ce qu'ils avaient d'autre ? Transparent. Voilà, ils ont quand même... je pense faire un effort de programmation assez conséquent. Ils ont souvent été identifiés à des comédies un peu lourdingues, je dirais, genre Lazy Company, tout ça, qui moi me parlait pas du tout. Et là, je trouve qu'il y a un saut plus contemporain avec les grands, entre les grands et ça, qui m'intéresse en tout cas, que j'ai envie de voir la suite.
Joseph Gost,
peut-être juste un mot sur. Comment dire, c'est, moi quand je l'ai regardé,
irresponsable,
j'ai vraiment eu l'impression de voir une série qui s'inspirait non pas de séries, mais plutôt de ce qu'on voit comme sur Internet en fait, de ce qu'on partage sur Twitter, brut, etc. Ce genre de choses. Et c'est peut-être ça qui m'a un
plus
peu déstabilisé.
Des scénettes qu'un
c'est
vrai
des scénettes film. Et c'est des choses. J'ai l'impression que c'est des choses qui étaient destinées à être partagées, à être vues sur le téléphone. Et du coup, ce format-là ne convient pas très bien. Et de voir ça à la télévision. Sur un écran comme ça, c'est sans doute pour ça que je trouve ça assez pauvre en fait.
Réaction
parce que c'est une réaction.
Alors il y a un problème avec les petits formats en France parce que aux États-Unis c'est le format le plus expérimental le 30 minutes. Enfin en tout cas c'est là où il y a Transparent, I Love Dick, Atlanta, de nombreuses séries depuis 15 ans. On est sorti du format sitcom classique pour arriver à une comédie de 30 minutes beaucoup plus étonnante. Et là c'est vrai que Irresponsable n'atteint pas ce niveau-là en termes d'innovation formelle. Mais je la rapprocherai pas des programmes courts, c'est-à-dire qu'effectivement on pourrait considérer que c'est une suite de scénettes par il y a un peu ce défaut, je peux pas le nier, c'est un peu c'est aussi le sel de
il y a quand même un arc narratif par épisode de 30
minutes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un épisode qui se passe pendant une soirée en flashback, enfin il y a quand même des petites choses qui font que on est emmené, on est pris par la main et c'est un frère et une sœur qui écrivent ça et je trouve que c'est il y a quelque chose d'assez je sais pas, moi ça me j'ai envie d'être, disons que je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire en troisième saison, s'ils vont un peu larguer les amarres.
Bon, j'ai envie aussi. Iris Bray, c'est bon?
Ouais, moi je suis prête pour la troisième saison.
Bon, on sera prêt, on amènera Joseph Gost, on prendra très 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 grand lit.
Je viendrai.
Et on sera sur le dessus, hein, sur la couverture bien sûr. Irresponsable saison 2 de Frédéric Grosset, c'est à partir du 22 février, donc la semaine prochaine sur OCS.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Troisième sujet de cette dispute série avec la grosse cavalerie déployée par Netflix pour produire et promouvoir Altered Carbon, une série créée par Laeta Kalogridis, adaptée du roman de Richard Morgan, qu'on classe généralement dans le genre cyberpunk. On verra de quoi il s'agit dans un instant. Le héros, c'est donc Takeshi Kovacs. Il était mercenaire, rebelle au 22e siècle, je crois. Il a été plongé dans une sorte de néant végétatif, je ne sais pas bien comment résumer ça, avant d'être ramené à la vie 300 ans plus tard dans une autre enveloppe corporelle. Il faut dire qu'au moment où on le réveille, la conscience humaine peut être sauvegardée sous forme numérique et donc téléchargée dans n'importe quelle enveloppe corporelle. Passons. Alors si on le réveille, c'est parce que l'homme le plus riche du monde l'a souhaité, puisqu'il demande à Kovacs d'enquêter sur sa propre mort. La propre mort de l'homme le plus riche du monde.
Mais qui n'est pas mort.
Le richissime Bancroft s'est servi donc d'une sauvegarde par satellite de sa conscience pour la réinjecter dans un de ses clones. Vous avez compris ?
C'est une comédie. C'est vraiment ça.
Vous avez du mal à suivre ? Bon, c'est normal. Mais c'est une infime partie du point de départ de Altered Carbon.
Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. You transfer the human consciousness between bodies to live eternal life.
How long have I been down?
250 years.
You are the property of Bancroft Industries. You've been provided with this body, which came equipped with military-grade neurochem and combat muscle memory.
Mr. Kovacs,
I didn't ask you to bring me back into this world.
All I ask of you is that you solve a murder.
Whose?
Mine.
This is the beginning.
Whoever murdered him
must be found, or we're all in danger.
I'm gonna need access that you don't want to give. And I'm gonna find answers that you may only think you want.
Friends, enemies, people with opportunity and motive.
I can't trust anybody.
If you don't solve this quickly enough,
I'll erase you. The end.
I thought you'd be bigger. They made me bring all this back up.
It's rude.
There's more here than you're willing to see.
The mystery needs to be solved.
Hey, Lieutenant.
You know, saving your ass is not my only job.
I like her.
Ben voilà une bande-annonce tout en finesse.
Comme la série.
Non, Joseph Ghost.
Tout en finesse comme la, oui, comme la série.
Non, parce que je dis toujours beaucoup de mal des bandes-annonces qui sont souvent, ouais. Soit en distro, soit mentes. Là,
c'est dit exactement ce que c'est. Oui. En fait, pour revenir sur ce que, sur le,
ce pitch. Vous voulez refaire le pitch?
Oui, je voudrais refaire le pitch parce qu'en fait, moi, je le trouve très simple. Je trouve que c'est un pitch extrêmement classique, qui est quelqu'un qui revient du passé pour enquêter sur le présent. C'est le pitch de Out of the Past de Jack Turner.
Facile.
Oui, mais c'est ça. À partir de là, je me suis dit, tiens, ça va être assez intéressant de voir ce qu'ils en font. Et effectivement, avec ce côté immédiatement affiché par une surproduction cyberpunk, comme vous le disiez, mais enfin simplement dans l'affichage. Sauf que très vite, effectivement, on est perdu dans des méandres de détails, dans une surenchère autour des indices de la technologie et du présent, c'est-à-dire ah oui tiens, on peut sauvegarder son âme ou son esprit ou
sa conscience,
on peut sauvegarder sa conscience, la télécharger, etc. Ce n'est qu'un fantasme d'aujourd'hui, mais voilà, petit à petit ça devient assez lourdingue, on se perd vraiment dans l'enquête. Elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Esthétiquement, c'est aussi, même si ça n'a rien à voir avec la série dont on parlait avant, c'est vraiment extrêmement moche. Et surtout,
c'est moche avec des moyens. C'est
moche avec des moyens, voilà. Et surtout, moi, j'étais très déçu, mais progressivement, par le personnage principal que l'on avait vu dans The Killing, si je me souviens bien.
Et dans House of Cards aussi. Voilà.
Et que j'aimais bien, surtout dans The Killing, sa façon de se mouvoir, d'être un peu dans le paysage.
Bah là, on l'a modifié aussi.
Et là, on l'a vraiment modifié
son enveloppe.
Tout, exactement. Et petit à petit, ça devient une espèce de créature qui se meut dans cette série et qui n'a voilà, ça m'a laissé un peu sur ma faim, alors que je suis plutôt assez friand et client de science-fiction, et notamment de science-fiction qui décline ces thèmes-là, les thèmes de William Gibson qui a plus ou moins inventé le cyberpunk, mais aussi Moebius en bande dessinée, etc. Donc on voit bien d'où ça vient, on voit bien toutes les inspirations. Mais
bien
aussi,
on voit bien etc. comment ça a mal tourné.
Mais on voit bien que ça a un peu mal tourné.
Bon, Iris Bray, votre sentiment sur Altered Carbon?
Alors, ben, je sais même pas par où commencer. C'est-à-dire que quand Joseph dit l'enquête n'a aucun intérêt, évidemment, le mec en fait n'est pas mort. Donc déjà, il s'est construit comme un policier. Alors bon.
Oui, il faut quand même savoir qui l'a tué.
Oui, mais enfin,
pour savoir
vraiment,
qui pourrait à nouveau le tuer.
Oui, mais en fait, on en a vraiment, on n'a pas envie de savoir parce que
il était mortel en même temps.
Voilà, donc c'est. Il y a ce symbole du serpent qui est toujours là, donc, et la série en fait est un peu comme ces personnages qui peuvent changer d'enveloppe corporelle, elle n'arrête pas elle-même de muer d'un genre à l'autre, mais rien ne nous rattache à ça, et c'est vraiment un très très grand raté, parce que il pourrait y avoir quelque chose de génial en fait dans cette idée d'enveloppes qui sont mouvantes, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un sexe masculin à un sexe féminin. À un moment, je sais pas si vous êtes arrivé jusque là, mais il y a un personnage d'une grand-mère qui se réincarne en un personnage tatoué et qui tout d'un coup dit qu'elle est très très heureuse de pouvoir faire pipi debout. Bon, et voilà.
Il y a donc une petite fille dans le corps d'une vieille dame aussi. Voilà, ça la fait moins rire, la petite fille.
Oui, mais tout ça en fait, si on y réfléchit deux secondes, ça pourrait aller très très loin, c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment, à partir du moment où ce n'est plus les femmes qui sont conditionnées à donner la vie, si on enlève cet élément-là, ça pourrait devenir un monde totalement différent. Et c'est ce que Donna Haraway écrivait dans un manifeste, enfin dans un essai qu'elle avait écrit en 1984 qui s'appelle Manifeste Cyber. Et ben, c'est cette idée-là, en fait, de, à partir du moment où on décloisonne, en fait, toutes ces catégories, un peu ce dualisme qui, finalement, de domination, parce que c'est vraiment ça, là. On n'est plus, il n'y a plus les dieux et les humains. Tout le monde peut devenir dieu. On n'est plus dans le civilisé et la culture. Enfin, on pourrait déconstruire la nature, la culture, tout ça, tout ce qui rend, en fait, notre société hiérarchisée et aussi tout ce qui, finalement, fait qu'on est dans une société patriarcale. Et là, au contraire, on est à fond dans le patriarcat. Et alors, la manière dont les femmes sont représentées, mais c'est plus possible. Voilà, c'était mon cri du cœur.
Je partage. Olivier Joyard.
Oui, en plus, le héros s'appelle Takeshi, donc il est devenu blanc. Donc il a au bout de 5 minutes, c'est fini, quoi. Et c'est absolument. Enfin, je crois que c'est pas problématisé. J'ai pas vu les derniers épisodes de la première saison, mais en tout cas, c'est pas. Bon, voilà,
Non,
et moi surtout, moi je rejoins Iris sur cette question, les questions d'identité, de fluidité, on passe d'un corps à un autre, d'un état de corporel à un autre, d'identité fluctuante, c'est vraiment tellement contemporain, et c'est, moi je préfère la version queer de Sense8, par exemple. Il pourrait y en avoir d'autres, mais là je me retrouve devant... quelque chose qui est effectivement rejoue des codes ultra vieux sur une fiction qui pourrait être ultra contemporaine, et moi je me retrouve pas du tout. Et par ailleurs, toutes les références à Blade Runner, toutes ces choses qui sont vraiment, c'est du Blade Runner. Enfin, j'ose même pas parler de série B, parce que la série B, c'est, ça peut être génial. Enfin, historiquement, c'était génial à Hollywood dans les années 50, mais il y a quelque chose de, on fait cette série parce qu'on a les moyens de la faire. J'ai l'impression que c'est ça la politique de Netflix sur cette série, en tout cas. On peut faire ça, on va faire cette grande adaptation, on va mettre plein d'argent, mais au fond, c'est une série de castagnes un peu comme une autre, quoi. Enfin,
oui, Joseph Gosse.
Oui, c'est vrai que, enfin, je rejoins complètement, c'est vrai que Blade Runner est une référence omniprésente partout, et que, mais que finalement, quand on la regarde, ce qu'on en retient, là, de cette série, c'est la violence, en fait. C'est la violence, les bagarres, et ce espèce de déferlement de sang, alors que, finalement, quand on la prend au départ, moi, au début, je me dis, tiens, ça va être intéressant, parce que c'est l'impression que ça va développer ce que Blade Runner esquissait déjà, c'est-à-dire la mémoire, ce qu'on fait de sa mémoire et ce qu'on garde de soi. Et alors qu'en fait, très, très vite, ça arrive à juste de la violence, même pas du sexe et du coup de sang.
Oui, une autre référence, peut-être que j'ai moins cité, c'est Terminator, parce qu'il y a quand même cette obsession de vouloir montrer ce héros bodybuildé nu sous toutes les coutures possibles et qui renvoie l'image de Arnold Schwarzenegger dans son enveloppe humaine, pour le coup, dans Terminator, ce qui est un peu court quand même pour nous inciter à suivre un récit aussi alambiqué, parce qu'on n'a pas parlé des multiples strates du passé qui reviennent à sa conscience dans son autre planète, son autre vie, avec une femme leader. Alors, le seul personnage féminin valorisé, il est tellement creux qu'on ne peut évidemment pas y adhérer.
Il y a aussi Matrix.
De différentes réalités.
Etc. Mais à chaque fois, il y a beaucoup de références juxtaposées, mais le résultat est assez raté. C'est-à-dire, quand vous citez Terminator, dans tous les films, dans tous les Terminators, le personnage est ambigu, on s'y attache, etc. Alors que celui-là, plus la série avance, et plus son ambiguïté s'efface, et aucun attachement ne se crée.
Terminator, ça arrivait à un moment où le numérique était naissant, enfin, le 2 surtout, beaucoup d'innovation. Et là, c'est vraiment nouveau riche, quoi. C'est-à-dire qu'on a tous les moyens et on balance ça.
Mais c'est ça qui est le plus gênant, c'est quand même le côté très prétentieux de cette série qui, en plus, veut quand même essayer de nous faire croire qu'elle a un discours philosophique sur la mort, la vie, la religion, l'amour. Et c'est quand même, on est vraiment au ras des pâquerettes.
Oui, je pense que c'est extrêmement prétentieux et il n'y a pourtant rien qui est réfléchi ni pensé. C'est-à-dire que si c'était un peu stimulant, ni narrativement, ni dans ce que ça raconte, ni dans la manière où c'est représenté. D'ailleurs, il y a une scène extrêmement violente de combat à la fin entre, je peux pas révéler qui est cette femme, mais bon, bref, elle est nue, donc elle se bat totalement nue contre une autre femme qui, elle, est totalement refaite, mais là, elle est habillée, alors qu'à l'épisode précédent, elle était nue, et cette femme totalement nue se dédouble. Donc, en fait, on a 6 femmes nues qui se battent contre une femme juste pour avoir des plans de full frontal qui n'apporte absolument rien à l'intrigue. Et encore, si on travaillait sur toutes ces comédiennes qui sont totalement refaites, pourquoi pas ? C'est intéressant, on parle de l'enveloppe et de qu'est-ce qu'on fait de l'enveloppe, mais il n'y a absolument aucun discours sur ça. Du coup, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'elles sont toutes avec les seins et les lèvres refaites, enfin, pas toutes les seins d'ailleurs, mais on se dit, mais vraiment...
Soyons précis.
Mais c'est vraiment... je comprends même pas, en fait, qu'on puisse... laisser passer ça. Je me dis, il y a beaucoup de personnes qui ont lu ce scénario, il y a beaucoup de personnes qui devaient être à ce casting avec autant d'argent. À aucun moment, quelqu'un s'est posé la question de qu'est-ce qu'il racontait ou qu'est-ce qu'il représentait en 2018.
Mais qu'est-ce qu'on en dit, Boris Pino, sur les réseaux sociaux ?
Gérard Pina sur Facebook annonce, attention, chute de carbone lourd, très lourd, vraiment plutôt proche du plomb de chez Plombant. Moche, lourd, dingue et incompréhensible, on zappe. Daywalker, un polar noir dans un univers cyberpunk, c'est un vrai ovni. L.T. Patterson, Altered Carbon, c'est vraiment du très très bon, visuellement bluffant, personnage complexe et scénario imprévisible. Et Greg Dutt, je crois que je n'avais pas autant kiffé un truc que je ne comprends qu'à moitié depuis ma première partie de Adibou.
Ah, bon, comprennent qui pourra, mais visiblement il y a des rires, donc il y a beaucoup de gens qui comprennent cette allusion qui m'est passée complètement à côté. C'est quoi Adibou, Boris Pino ?
C'est un jeu vidéo des années 90 pour les enfants. Il
s'agit c'est le moment où j'ai arrêté de jouer avant de reprendre, alors c'est bien ça. Bon,
Olivier Joya. Il y a un truc que j'aime bien, c'est les titres des épisodes qui sont des titres de grands films classiques hollywoodiens. C'est la seule chose qui m'amuse. Donc il y a Le violon de Nicolas Ray,
Tant qu'à piller,
Le faux coupable et La griffe du passé qui est le nom du premier épisode. On peut se faire une culture cinéphilique en regardant juste les titres et en allant voir ensuite les films dont il est question.
En regardant les titres. Mais qu'est-ce que ça dit, comme il nous reste 2-3 minutes, qu'est-ce que ça dit plus globalement de ce qu'est Netflix aujourd'hui pour effectivement produire une série pareille, qu'elle passe tous les filtres pour arriver avec une campagne de promotion mondiale absolument massive? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent et pas de goût? Olivier Joyard,
je crois que Netflix a beaucoup d'argent, ça c'est sûr, et parfois du goût. Simplement, ça tombe pas toujours juste. Là, je suis pas certain que ce soit une. Je pense que Netflix se démarque par le fait de n'avoir pas d'identité ni de politique. Enfin, c'est vraiment ça. C'est une chaîne grand public.
Il y en a pour tous les goûts, donc.
Voilà, c'est TF1 en version multimilliardaire et mondiale. Enfin, c'est quand même ça dont il s'agit. Moi, j'aime quand. Et donc, c'est quand même la recherche de grands récits collectifs qui nous unissent, quoi. Et je trouve que ça fonctionne avec Stranger Things, par exemple, dont on avait parlé ici. On n'était pas non plus tous d'accord, mais. Au moins, il y a une forme de naïveté et dans l'idée de reprendre des thèmes du passé qui, moi, me touche beaucoup. Donc, je trouve que Netflix, c'est même difficile. Il n'y a pas de prise, en fait. Je ne peux pas dire c'est ça, une série Netflix. Simplement, c'est en général une série qui a plus de moyens que les autres.
Joseph Gosse ?
Oui, c'est vrai que c'est exactement ça. C'est-à-dire il n'y a pas d'identité. On explore des choses. Stranger Things, même si effectivement on n'était pas d'accord, ça reste quand même assez supérieur. Et même The OA, je crois qu'il était sur Netflix aussi, était une bien meilleure série que ça. Bizarrement, j'ai l'impression qu'avec quand 3 ans, ça a quand même pas mal dégénéré en fait. Finalement, l'impression que la surenchère, le succès, la surenchère des moyens. À des choses comme celle-là qui sont un peu boursouflées et qui ont perdu beaucoup de la poésie de ce qui s'était passé il y a 3 ans.
Ouais, il y a toujours quand même des ovnis qui passent. Il y aura une deuxième saison. Sense8, à force de lobbying, il y aura quand même une saison finale, la saison 3. Votre sentiment sur Netflix aujourd'hui, Iris Bray ?
Oui, ça me fait un peu penser en fait cette série à Marco Polo. Il y avait eu énormément de moyens, beaucoup de scènes de sexe inutiles et finalement pas grand-chose au bout du compte. Je pense que Netflix a envie quand même de mettre en avant des mondes en fait. Et seulement ce monde-là de Altered Carbon, même s'il aurait pu être fascinant, l'est absolument pas et on a vraiment envie d'arrêter.
Bon, voilà qui est dit. Il faut guetter quoi ? Il nous reste une minute dans les séries à venir. Un petit bonus là ? Oui, la série d'Olivier Joyard, ça s'appelle comment ? Enfin, un peu de pages d'autopromotion.
Ça s'appelle J'ai deux amours. C'est diffusé sur Arte le 22 mars prochain.
Ah, c'est mon anniversaire, c'est gentil ça, Olivier, vous me faites plaisir.
Je pense que ça va beaucoup vous plaire, Arnaud.
Bon, la suite de Sex and the Series, tant qu'on y est, non ? Par Iris Bray.
Non, toujours disponible sur OCS.
Voilà, d'accord, disons-le comme ça. Et les séries à venir qu'il faut guetter absolument ?
Love, peut-être, que cette troisième saison qui revient début mars sur Netflix, pour le coup.
Si les personnes n'ont pas vu This Is Us, vraiment, je trouve que là, même si les deux derniers épisodes étaient un peu plus décevants, cette saison est quand même je trouve vraiment passionnante. Et puis, il y a la série de Faucon qui a été montrée là, dans un festival à Luchon, qui s'appelle Fierté.
Philippe Faucon ?
Oui, qui est, je trouve, excellente.
Précisons le bas, il fait des choses excellentes, Philippe Faucon. Et Joseph Beauze, vous guettez quelque chose, vous ?
Je ne guetterai jamais rien.
Bon, vous verrez ce qu'on vous dira de regarder, c'est ça ?
Non, mais justement, j'aime bien, pour revenir sur Netflix, j'aime bien Netflix pour ça, c'est-à-dire pour...
Essayer au hasard,
oui.
Altered Carbon, Essayer au hasard, de Laetitia Kallogridis, est donc disponible sur Netflix. « Un peu de jeu à présent pour faire gagner quelques cadeaux à nos auditrices et auditeurs. D'abord un rappel de la question du jeu d'hier soir et sa réponse par Camille André.
Quel est le titre du premier film de Svan Dubus-Mallet, co-réalisatrice du documentaire Finding Fong? Et la réponse était 1970-1989.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour le Salon international de l'agriculture qui se tient du 24 février au 4 mars à Paris Expo, Porte de Versailles. Quelle est la question, Camille?
Dans quel film un paysan algérien entreprend un long périple pour faire participer sa vache au Salon de l'agriculture?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter cette émission plusieurs fois, vous abonner au podcast très régulièrement, vous préparez vos commentaires pour l'émission de lundi, alors vous pouvez les poster sur la page Facebook La Dispute FC ou attendre le direct en suivant le compte Twitter Dispute FC, le programme de lundi. 19h, bien sûr, un spectacle vivant avec Fabienne Pascaud, Marie-Josée Sirache et Philippe Chevillier. Nous parlerons de Poussière, écrit et mise en scène par Lars Noren, en ce moment à la Comédie Française. Le jeu de l'amour et du hasard, Marivaux, mise en scène par Catherine Yegel au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et enfin, Seasonal Affective Disorder de Lola Molina, mise en scène Lélio Ploton. C'est jusqu'au 31 mars au Lucernaire.